BFM Business présente Recherche Talent avec Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Recherche Talent, la seule émission où ce sont les patrons qui passent un entretien d'embauche aujourd'hui. Le défi est lancé à Franck Marotte. Bonjour, le PDG de Toyota France. Toyota, le premier constructeur mondial automobile. Face à vous, trois étudiants. On fait leur connaissance.
Je m'appelle Samuel Martranchard. J'ai 21 ans, je suis étudiant à Centrale Supélec et président de Junior Centrale Supélec, la plus grande junior entreprise ingénieur de France. Toyota, au-delà d'être le plus grand constructeur automobile mondial, est pour moi une entreprise qui continue à fabriquer ses véhicules en France et donc un acteur du rayonnement industriel français.
Bonjour à tous, je m'appelle Louis Pichon, je suis étudiant en troisième année au sein du programme Grande École de l'UM Normandie Business School. C'est un immense honneur aujourd'hui d'être devant vous, Monsieur Marotte, et de pouvoir vous poser mes questions et d'en découvrir plus sur le secteur de l'automobile et également vos différentes manières de manager qui sont pour nous importantes en tant qu'étudiants en école de commerce.
Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Yassine Assar, j'ai 23 ans et je suis actuellement en année de césure dans le cadre de mon programme Grande École à TBS Éducation. J'effectue mon stage en tant qu'assistant chef de produit chez Volkswagen Group France et en tant que passionné d'automobile, j'ai hâte de rencontrer Franck Marotte pour lui poser toutes mes questions.
Samuel, Louis et Yacine, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Je vais faire l'affront de vous demander si vous connaissez Toyota. Ça m'arrive parfois de demander si on connaît le nom des boîtes, mais là, quand même, vu qu'en plus vous avez des profils plutôt liés à l'automobile, j'imagine que vous connaissez. Vous êtes prêts, Franck Marotte, face à E3, on le disait, premier constructeur mondial. Quelle part de marché en France ?
Alors, on a fait 6,2% exactement l'année dernière. Et en début d'année, on est même au-dessus de 8. Donc, on continue à progresser.
Des usines en France. On a déjà entendu ça dans les présentations.
Alors, on a la plus grosse usine automobile sur le territoire français. On a produit 270 000 voitures l'année dernière. Donc, ça fait beaucoup de ventes, beaucoup de clients qu'on a réussi à satisfaire. Et on est très fiers d'avoir cette implantation industrielle. C'est 5 000 emplois. Direct. Donc, c'est un investissement qu'on a commencé en 1999. Donc, vous étiez tout jeune.
Ou pas né même, je suis sûr.
Ou peut-être pas né même. Voilà. Mais c'est toujours une grande fierté parce que produire des voitures sur le territoire français, je ne sais pas si on sera amené à en parler, mais c'est toujours un challenge que certains ont arrêté de relever et qu'on est très fiers de continuer à mener.
Alors, c'est parti face à vous. Nos trois étudiants, on commence avec vous, Samuel. Qu'est-ce que vous voulez demander à Franck Marotte ?
Bonjour.
Bonjour.
Première question, du coup, vous parlez de la plus grande usine de véhicules en France. Donc, j'imagine qu'il y a énormément d'embauches dans tout ce qui est technicien, mécanicien, etc. Qu'en est-il des ingénieurs ? Est-ce que vous continuez, est-ce que Toyota continue à investir dans les talents français et notamment à recruter des ingénieurs en France ?
Alors, on continue à le faire, bien sûr. On a une activité industrielle qui requiert des compétences d'ingénieurs pour encadrer la production. Donc c'est déjà un pôle d'investissement très important. C'est plusieurs centaines d'ingénieurs qui sont en CDI dans notre usine de Valenciennes. On a également quelques ingénieurs qui travaillent. On a un centre de design. Alors c'est moins connu que notre usine de Valenciennes, mais qui est dans le sud de la France, à Sofia Antipolis. Et là aussi, il y a des ingénieurs qui organisent entre le dessin et la production de la voiture, eh bien, la fabricabilité, si je devrais m'exprimer ainsi, d'une intention stylistique. Voilà, donc on continue à investir. Et puis chez Toyota France, dans les activités tertiaires, on a bien sûr un département technique qui supporte le réseau de distribution quand il s'agit d'opérer les réparations de véhicules, qui va être amené à grossir aussi parce qu'on va passer dans l'ère des véhicules électriques. C'est un champ qu'on va surtout pas abandonner, mais qu'on va plutôt faire grossir de manière à, en permanence, être au rendez-vous de la satisfaction client à la réparation.
Ça tombe parce que Samuel, vous avez un profil automobile plus énergie, donc vous êtes bon pour la voiture électrique. Clairement, ça me paraît...
Voir la voiture à hydrogène.
Ah, on va en parler. Louis, votre question.
Oui, bonjour, merci de nous recevoir. En tout cas, une petite question sur les projets et les initiatives de Toyota sur ces prochaines années et sur quel sujet, en vérité, vous allez plus vous concentrer. Et notamment nous, en tant qu'étudiants en école de commerce, qui allons peut-être réaliser des stages ou des alternances dedans, comment on peut réussir à un peu prendre le rythme dans cette entreprise-là et pas en te déranger les stratégies ou les différentes initiatives qui pourraient arriver chez Toyota.
Alors, la grande affaire de l'automobile, tout le monde en parle beaucoup, c'est évidemment le verdissement de notre technologie et donc de réussir à faire des voitures qui n'émettent plus de CO2 ou de particules, quelles qu'elles soient, parce qu'on parle beaucoup du CO2, il y a aussi d'autres particules. Les ingénieurs, ça connaissent bien cela. Donc, c'est la grande affaire technologique. C'est la grande affaire aussi pour les clients qui vont devoir changer de monde en termes d'usage. Donc ça requiert un accompagnement des clients à la vente, à l'après-vente. Et chez Toyota, on a toujours pour ambition d'être les meilleurs en satisfaction client. On est numéro un mondial en nombre de ventes, mais c'est pas forcément l'objectif primaire que l'on a. L'objectif primaire, c'est bien de satisfaire le maximum de clients. Et donc, tous ces changements importants qui vont avoir lieu dans notre industrie vont devoir être accompagnés pour que les clients ne soient pas perdus et restent satisfaits. Donc, ça veut dire des profils commerciaux qui vont être de plus en plus sophistiqués parce qu'il va falloir comprendre la technique, pouvoir l'expliquer et pouvoir accompagner. Donc là aussi, on va continuer à investir le champ des compétences qui se...
En formation, parce que là, il y a des commerciaux dont il faut changer complètement la manière de voir l'automobile.
Oui, alors... L'avantage, c'est que ce qu'ils apprennent à l'école maintenant est assez différent et les forme beaucoup mieux que ce que moi j'ai appris. Moi, il a fallu que je m'y mette bien tard. En l'occurrence, je pense qu'ils auront été largement initiés pendant leurs années d'études. Il y a aussi tout un champ nouveau dont j'ai pas encore parlé, mais vous poserez peut-être des questions là-dessus, c'est le digital. Le commerce continuera, selon nous, à avoir une part de relations physiques avec les clients. Mais il y aura aussi, bien sûr, le champ digital qui va fondamentalement se développer avec l'intelligence artificielle qui va prendre une part aussi dans tout ça, dans la planification, dans la prévision, dans la gestion financière de nos activités. Donc là, eh bien, tout ce que vous êtes en train d'apprendre dans les écoles de commerce à ce sujet vous rendra extrêmement utile par rapport à la vieille génération que je représente.
Yacine.
Bonjour, Monsieur Marotte. Merci de nous recevoir. Donc, en tant que passionné d'automobile et qui plus est de voitures sportives, on sait que Toyota compte parmi ses modèles de très beaux modèles sportifs. Et on voit avec les nouvelles normes, les nouvelles réglementations que ces voitures sont peut-être vouées à disparaître ou prendre un nouveau virage vers l'électrique. Et ma question serait de comment justement garder des sensations dans les futurs véhicules électriques. On voit que certains constructeurs mettent des haut-parleurs ou d'autres technologies innovantes. Qu'est-ce qui est mis en place par Toyota ?
Question consommateur. Non, mais
ouais.
Quand vous dites véhicule sportif, vous dites quoi derrière ?
Je pense à la Yaris GR, par exemple, ou à la Toyota Supra.
Alors, monsieur est connaisseur, c'est très bien. Effectivement, c'est un vrai challenge, parce que historiquement, les voitures sportives, c'était avant tout un moteur sur un châssis, mais un moteur qui faisait beaucoup de bruit et qui était très puissant, pour résumer.
Ça, c'est l'ancien monde.
Et on va basculer dans un autre monde, déjà dans le sport automobile de haute compétition, hein, les 24 heures du Mans, le rallye. Alors, il y a déjà des courses, le WEC, par exemple. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais il y a déjà des courses automobiles en zéro émission. Ça va probablement se diffuser de manière beaucoup plus large. Moi, je suis convaincu que le sport automobile reste, plus que jamais, j'allais dire, parce qu'on est dans une transition technologique, plus que jamais un instrument de développement de nouvelles technologies, de recherche fondamentale pour apporter un jour ou l'autre aux clients beaucoup plus « normaux » entre guillemets de tous les jours, eh bien des technologies extrêmement modernes. Voilà. Donc il faut absolument que les constructeurs aient encore le loisir d'investir dans ce champ du sport automobile. Après, comment on arrivera à traduire le plaisir ? Ça, c'est un vaste sujet. Alors déjà, l'électrique va nous aider quand même un petit peu parce qu'il y a beaucoup de couples.
Bien sûr.
Les spécialistes le savent. Donc il y a un phénomène d'accélération et de poussée à l'accélération extrêmement forte. Donc ça procure toujours beaucoup de plaisir.
D'accord, alors là j'apprends des choses. Okay. Donc vous accélérez vite avec une électrique...
Quand vous avez une toute petite voiture électrique, pas trop chère, vous avez presque une accélération comme une Porsche.
D'accord, ok.
Pour citer un concurrent très
connu.
Qui fait référence dans le monde de l'automobile. Voilà, donc ça c'est déjà un premier avantage. Après, il y a le bruit. Effectivement, l'électrique a pour caractéristique d'être à peu près silencieux. Comment on traitera le bruit ? Est-ce que ça sera toujours une attente dans le plaisir automobile demain ? À voir. Il faudra aussi qu'on offre des alternatives, parce que le bruit, finalement, c'est ce que nous, on a connu avant. Peut-être que la vitesse, justement, en silence, quand on fait de l'avion et qu'on passe dans une montgolfière, par exemple, on s'aperçoit que la montgolfière procure beaucoup de plaisir. Et pourtant, c'est silencieux. Mais justement, le silence apporte quelque chose associé à l'altitude. Donc la vitesse associée au silence, si je devais faire une comparaison, ça peut être aussi le plaisir du futur.
Samuel, c'est à vous.
Oui, je vais rebondir sur ce dont vous parliez, la digitalisation des métiers, notamment aussi chez Toyota, même si vous construisez des voitures. Avec les voitures électriques, ça prend beaucoup moins de main-d'œuvre pour construire une voiture. Également, on sait qu'aujourd'hui, une grande partie de la fabrication des voitures est automatisée. Pensez-vous qu'il y a un changement des métiers dans le secteur de l'automobile, et notamment chez Toyota ? Comment anticipez-vous cela ?
Alors absolument, c'est un changement extrêmement fondamental qui est en train de se passer, j'allais dire du début jusqu'à la fin de la chaîne. C'est un changement déjà dans la conception des véhicules, dans le dessin. Je parlais tout à l'heure du coup de crayon et du premier dessin qui est le tout début d'un projet automobile. Maintenant, la plupart des maquettes que l'on faisait auparavant en physique sont faites de manière digitale. Et donc, on juge déjà le style futur de la voiture de manière digitale. Ensuite, la conception est de plus en plus digitalisée également. C'est-à-dire que là où auparavant, on avait des moyens physiques pour simuler tout un tas de choses, on le simule maintenant de manière digitale. Les chocs, la résistance à l'air, les projections d'émissions, etc. Tout ça est largement digitalisé avec de l'intelligence artificielle qui joue son rôle. Ensuite, la production, vous en parlez. La production va être énormément modernisée. Alors, il y a des constructeurs qui sont partis il y a quelques années d'une page blanche pour faire des véhicules électriques avec des usines complètement nouvelles et qui ont révolutionné, on peut l'admettre, hein, nous n'étions pas parmi ceux-là, mais qui ont révolutionné la manière de fabriquer les voitures. Puisque une voiture électrique, c'est moins de pièces, c'est beaucoup plus simple à fabriquer. Et avec l'apport de l'intelligence artificielle ou de la digitalisation, eh bien, on peut avoir des usines beaucoup plus compactes, beaucoup plus simples aussi dans leur conception intérieure. Voilà, donc ça va révolutionner nos modes de fabrication. On estime, nous, chez Toyota, que quand on va passer à la production massive de voitures électriques dans des usines revues et corrigées, on économisera 50% dans les coûts de fabrication. Pas seulement la main-d'œuvre, mais aussi l'organisation, l'espace, etc. Et puis ensuite, une fois que la voiture est fabriquée, il y a le commerce. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le commerce va aussi se digitaliser. On va apprendre à utiliser l'intelligence artificielle pour beaucoup mieux prévoir, pour organiser aussi nos plans médias de manière beaucoup plus intelligente, sans doute, et approcher le client en réduisant considérablement ce qu'on appelle les coûts d'acquisition. Les coûts d'acquisition, c'est quoi? C'est combien ça nous coûte de pouvoir vous toucher, vous, futur client, pour promotionner notre produit auprès de vous. Et ça, c'est toujours un grand challenge pour être de plus en plus efficace, de baisser ce coût d'acquisition et de ce coût d'approche du client.
Louis, c'est votre tour.
Une question qui se lie avec un peu tout ce qui est dit, plus sur vous, votre vision, avec vos différentes expériences passées dans différents groupes automobiles. Est-ce que vous pensiez que ça allait arriver aussi vite, l'impact du digital et de cette transition vers, pareil, tous les moteurs électriques, etc. Vous, quelle est votre vision un peu future et à long terme et court terme de l'impact?
Comment vous vivez la révolution?
Comment vous vivez exactement?
Alors, comment je vis la révolution? D'abord, ils sont bien renseignés sur mon parcours. Ils savent que j'ai fait plusieurs groupes automobiles. Ils ont Internet, voilà. Ils sont déjà digitalisés. Objectivement, je pense que si on avait écrit le scénario actuel il y a 5-6 ans, il y a assez peu de prévisionnistes automobiles qui auraient pensé que ça irait aussi vite que cela. Je vous rassure, ce qui est souvent le cas dans les prévisions, elles sont fausses le lendemain, hein, la plupart. Bon, donc on s'habitue à ça. Donc ça va effectivement très vite. Il y a un certain nombre de phénomènes de marché qui ont été accélérés par des crises que l'on a connues. Il y a eu la crise du Covid qui a bouleversé la mobilité. Avant cela, il y a eu ce qu'on a appelé le Dieselgate. Je ne citerai personne, mais il y a un représentant ici qui a été bien concerné.
C'est votre agenda, voilà.
Donc ces phénomènes-là ont considérablement accéléré les changements. Ont accéléré la réglementation, ont accéléré le comportement client, la digitalisation. Pendant le Covid, la plupart des métiers ont appris à se digitaliser beaucoup plus vite. Donc ça va en ce moment beaucoup plus vite. Certains disent trop vite, d'ailleurs. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de phénomènes qui, pour l'instant, ne sont pas maîtrisés dans tout cela. Par exemple, le prix des voitures décarbonées est encore trop élevé. Et le rythme des industriels pour faire baisser ce prix et le rendre accessible au plus grand nombre, tel que les voitures thermiques l'étaient, est aujourd'hui trop lent par rapport à ce que les médias, l'environnement politique...
Les décisions politiques, ouais.
Voilà, l'environnement politique, la réglementation voudrait nous faire... le rythme auquel ils voudraient qu'on avance. Donc c'est un vrai challenge pour les industriels. Ça demande.
Mais la question, elle est presque personnelle. Est-ce que vous, à un moment donné, vous.
Moi, je l'ai.
Ça va un peu vite, quoi. Je ne dis pas que vous êtes dépassé, mais à un moment donné, quand même, pour prendre des décisions stratégiques.
Alors, être dépassé, moi, je suis très, très humble et très tranquille là-dessus, parce que quand j'avais leur âge.
Oui.
J'avais l'impression, évidemment, que tous les plus de 40 ans étaient déjà dépassés. Donc forcément, ils vont sortir de là en se disant que je suis dépassé. Donc on est très tranquille. Et dans 30 ans, ça sera leur tour d'être dépassé. Voilà, ça c'est le jeu, c'est normal. On n'a pas appris les mêmes choses à l'école. Donc ce à quoi je fais face aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, je ne l'ai évidemment pas appris à l'école. Je l'apprends sur le tas. Vous apprendrez, vous, d'autres choses sur le tas aussi. Donc après... ce qu'il faut garder, c'est une humilité, une capacité à rester ouvert à ce qui se passe, même si certaines nouvelles choses sont parfois difficiles à comprendre, à appréhender, et toujours essayer de mesurer comment on peut continuer à guider son business model, à guider son entreprise, pour tirer parti de ce qui se passe. Y compris en allant chercher de nouvelles recrues, en recrutant des compétences nouvelles, parce que certaines compétences, qu'on le veuille ou non, s'arrêtent. Donc soit on transforme à l'intérieur, et c'est ce qu'on fait, soit on profite d'opportunités de fin de carrière de certains pour recruter de nouvelles compétences que l'on n'a pas et que l'on n'arrivera pas à avoir si on ne fait pas l'exercice de venir les chercher de l'extérieur.
Yacine ?
On voit que les nouvelles réglementations de l'État poussent les voitures thermiques vers la touche.
Ouais.
Ma question, ça serait justement, on parle beaucoup de voitures électriques, mais pensez-vous qu'il y aurait d'autres technologies, on pense aux voitures à hydrogène par exemple, qui pourraient être dans le futur utilisées pour nos voitures de tous les jours ?
Alors déjà, moi je voudrais faire attention à un sujet, c'est qu'on est très européano-centré dans tous nos discours automobiles. La fin du thermique dans le monde, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que ça coûte
très
cher.
Parce qu'il faut pas les mêmes règles.
Parce qu'il faut des infrastructures de recharge ou de ravitaillement d'hydrogène. Et qu'avant que l'entièreté de la planète, je vais vous dire malheureusement pour le CO2 et pour la santé de la planète, mais c'est une réalité, la mobilité reste un besoin fondamental dans toutes les zones du monde. Et avant que tout le monde bascule, ait les moyens de basculer et que les infrastructures soient en place, ça prendra beaucoup de temps. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, effectivement, on est convaincu chez Toyota, et je suis assez convaincu à titre personnel, qu'une technologie ne répondra pas à toutes les problématiques. D'abord parce que ça serait mettre tous nos œufs dans le même panier en termes de sources d'énergie, ce qui est très dangereux et ce qui peut nous mettre en risque en termes de capacitaire. Si demain, on doit tout faire avec de l'électricité produite sur la base de notre parc de centrales nucléaires actuelles, ça peut nous poser des problèmes. Secondo, il y a aussi beaucoup de pays, même en Europe, où l'électricité n'est pas décarbonée. Donc ça pose une question aussi sur la réalité de cette décarbonation d'une voiture électrique. Et puis, tertio, il y a d'autres sources de propulsion. Il y a d'autres énergies possibles qui sont à disposition aujourd'hui, en tout cas au stade de recherche et développement, et qui sont prometteuses. Laquelle arrivera à être au meilleur coût, avec les meilleurs rendements ? On va voir dans les années qui viennent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a à peu près une centaine de milliards d'euros qui sont investis globalement dans le monde par les constructeurs. L'essentiel pour la décarbonation. Donc ça veut dire que la recherche va aller très vite. On parlait aujourd'hui de rapidité du changement. Ça va aller très vite. Et les gagnants à l'arrivée en termes de solutions pour les différents types de mobilité entre la petite voiture et le gros camion ne seront pas forcément ceux qui sont écrits aujourd'hui. Et il peut y avoir des changements à venir dans les années qui viennent en fonction de tout ce que je viens de dire.
Je vous coupe, Franck Marotte, parce que c'est comme dans la vraie vie. On a un timing. Et là, votre entretien est terminé et nous ne sommes pas disponibles plus d'une seconde de plus. Vous savez comment c'est dans les entretiens RH. Vous allez rejoindre la régie, on va débriefer et après on se retrouve pour débriefer nous ensemble.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Merci. Merci.
Recherche talent sur BFM Business.
Samuel, Louis et Yacine, vous faisiez face à Franck Marotte. Samuel, vous qui êtes à la fois passionné d'énergie et à la fois passionné d'automobile, c'est pour vous, Toyota.
Ah ben, en tout cas, si Toyota connaît aussi bien les besoins de ses clients que ses employés, je dirais que oui.
Mais vous, là, on fait comme d'habitude, on propose un poste à la fin de l'émission, potentiellement ça vous intéresse ?
Je pense effectivement, il faudrait regarder quel poste, où ça, en France.
Pourquoi vous choisiriez Toyota plutôt que Renault ou Stellantis ?
J'aime beaucoup la vision de Toyota, de continuer à construire des voitures en France. Et j'aime beaucoup aussi la lucidité qu'avait Monsieur Marotte sur la transition vers de nouveaux véhicules. Dans le secteur de l'automobile, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Et là, j'ai trouvé ça très lucide.
Louis, on a vu à quel point les commerciaux allaient être centrales dans la révolution dans l'automobile, à quel point il va falloir aider les consommateurs à s'y retrouver, à choisir un véhicule, à passer aussi à l'électrique. Est-ce qui vous a convaincu, Franck Marotte ?
Convaincu, oui. Convaincu parce qu'on a vu dans tous les mots qu'il disait, même sur les sujets qu'on pouvait aborder, sur tout ce qui était transition, etc., qu'il faisait face d'une vraie transparence de l'information. Et on a bien compris que voilà, il cherchait une diversité de profils, notamment des commerciaux, et que nous, en tant qu'étudiants, futurs managers de demain, on avait vraiment notre place et on pourrait contribuer à l'évolution d'un grand groupe comme Toyota.
Et ça vous dirait de rejoindre un groupe comme Toyota ou pas ?
Complètement, complètement.
Parce qu'il compte sur vous, Franck Marotte, sur
on compte sur
l'évolution
aussi
des modèles. Yacine, vous passionnez d'automobile, question technique, vous allez la regarder, alors c'est un peu facile, sous le moteur d'une boîte comme Toyota pour voir exactement comment elle fait évoluer ses modèles. Vous allez regarder dans le détail. Hein.
Totalement, moi c'est le critère le plus important. J'aime bien ressentir des sensations quand je conduis, j'aime bien prendre la route et c'est super important pour moi d'avoir un bon moteur, d'avoir une fiabilité, d'avoir quand je me lève le matin, d'être sûr que la voiture démarre et c'est pour ça, c'est super important.
Mais par exemple, vous envoyez vos CV chez différents constructeurs, vous allez tester les voitures avant pour voir potentiellement qui pourrait vous embaucher.
Malheureusement, je pense que c'est pas possible de pouvoir tester toutes les voitures.
Mais vous pouvez pas travailler chez un constructeur dont vous considérez que les voitures sont pas au point, quoi.
Grâce à mes expériences passées, pour moi, le produit est très, très important. Et pour travailler dans une entreprise, il faut croire en son produit. Donc avant ça, on ne peut pas être épanoui dans une entreprise où on ne croit même pas en ce qu'on vend.
Ça, c'est bien vrai. Vous avez travaillé, vous êtes en stage en cours chez Volkswagen.
Totalement.
Ce n'est pas le même positionnement produit sur les voitures. Qu'est-ce qui pourrait allumer une petite flamme du côté de Toyota?
Le côté français, le côté d'avoir des usines en France, c'est très important. On le voit aujourd'hui que même dans la société actuelle, les consommateurs se tournent de plus en plus vers le Made in France. Et ça peut être un super argument de vente. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant de la part de Toyota.
Vous allez aller regarder, Samuel, Louis, où est-ce que l'entreprise produit?
Oui.
Samuel,
ouais. Notamment quand on achète, déjà. On a de gros sujets de réindustrialisation de la France. Et je pense qu'en tant que consommateur, c'est aussi notre rôle de s'investir vers cette action.
Louis ?
Complètement. De plus en plus dans ce qu'on achète, même dans notre consommation et notamment sur les voitures, je pense qu'on fait attention à quand même chercher le Made in France. Et...
Donc ça marche aussi pour les employeurs.
Exactement.
Merci à tous les trois d'être venus nous voir aujourd'hui.
Merci.
On va débriefer avec Franck Marotte.
Recherche talent sur BFM Business.
Franck Marotte, qui a marché auprès de nos trois étudiants, c'est l'usine en France. C'est un attrape-talent.
Semble-t-il. Mais tant mieux, parce que c'est un gros investissement, c'est un engagement fort dans le pays, et que ça porte aussi, que ça, pour la marque employeur, c'est à la fois légitime et très très bien. Ça veut dire qu'aussi, il y a un vrai état d'esprit pour réindustrialiser et localiser des talents en France. Et ça, on ne peut que s'en féliciter.
On n'a pas parlé salaire sur des jeunes talents comme ça, type ingénieur. On est sur quelle fourchette? C'est-à-dire qu'ils vont être, vous allez être complètement dans le marché, vous allez pouvoir aller au-delà?
On sera forcément dans le marché, sinon ils ne viennent pas. Donc après, on a des grilles en fonction de la catégorie de l'école. Mais on a de toute façon un incontournable d'être aligné si on veut attirer les meilleurs. Alors il y a effectivement, après la cerise sur le gâteau, la force de la marque, la force de l'industrialisation en France. Mais ça, c'est le plus qui fait venir les meilleurs, ceux qu'on veut vraiment aller chercher. Après, les conditions salariales, on n'a pas le choix. Et quelque part, c'est bien légitime parce qu'il ne faut jamais oublier une chose. C'est que l'employé est aussi le consommateur de nos véhicules, est aussi un client. Et les grandes entreprises qui parfois ont des politiques salariales trop limitatives, sacrifient quelque part aussi leurs propres consommateurs.
Impossible pour, c'était Yacine qui disait, de travailler pour une entreprise dont il ne croit pas dans le produit qu'il a essayé lui-même. Une question sur la révolution de l'automobile, à quel point elle va vite. Vous allez avoir potentiellement, si vous les prenez tous les trois, si vous les embauchez tous les trois, peut-être un écart très important entre générations au sein même de votre entreprise. C'est-à-dire que là, ils sont déjà, eux, la révolution, elle est déjà intégrée. Pour eux, c'est clair l'avenir de la voiture électrique. Est-ce que vous, en interne, c'est déjà aussi le cas?
Oui, et de toute façon, plus les changements sont rapides dans l'automobile, on a bien dit que les changements en ce moment étaient extrêmement rapides, plus la transition générationnelle, elle se fait très rapidement aussi. Et ça veut dire qu'il faut qu'on accepte de plus en plus d'avoir une part importante de jeunes générations dans nos effectifs, si on veut que globalement notre modèle continue à fonctionner et qu'on puisse satisfaire les clients de demain. Il faut s'habituer à ça. Ça, c'est effectivement un enjeu par rapport à la loyauté des collaborateurs que l'on a dans l'entreprise. Donc il faut aussi accompagner tous ceux qui veulent bien l'être pour se moderniser dans leur façon de travailler. Et Dieu sait que chez Toyota, on arrive plutôt bien à le faire.
Ça pour sera pouvoir le cas les faire échanger, quoi, entre générations,
oui,
qui
alors
se
après,
parlent.
Après,
moi, j'imagine des débats enflammés à la machine à café sur le thermique et l'électrique.
Bien sûr, mais après, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que les générations comme la mienne ont aussi beaucoup de choses à apporter. Parce que moi, je suis sorti de l'école, je m'en rappelle encore. On est effectivement plein d'innovations dans sa tête. On est plein aussi d'illusions, d'une certaine manière, par rapport à tout ce qu'on sait faire. Mais on n'a pas forcément conscience de tout ce qu'on ne sait pas encore faire et qu'on va continuer à apprendre. Et c'est aussi le rôle des entreprises que de former et d'accompagner des jeunes talents pour apprendre à travailler, parce qu'ils ont appris à étudier très brillamment. faut maintenant qu'ils apprennent à travailler. Et il y a des compléments quand même, heureusement, qu'on peut leur apporter.
Merci beaucoup Franck Marotte de vous être prêté au jeu de recherche talent. Aujourd'hui, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Nouveau patron, nouveau jeune, nouvel entretien. Je vous dis à la semaine prochaine.